Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe. 8h33
et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Merci de venir répondre à mes questions dans
Merci
ce studio. Vous êtes le président du Rassemblement National. On va revenir sur cette feuille de route qu'Elisabeth Borne a délivrée hier, la feuille de route des 100 jours d'ici le 14 juillet. Mais je voudrais qu'on commence par parler de ce drame qui s'est passé dans les Vosges, qui a touché tous les Français, le visage de cette mère de famille déchirée. Sa petite fille Rose avait 5 ans, son corps a été retrouvé dans un sac poubelle. Un adolescent voisin a été mis en garde à vue, il est en garde à vue au moment où on se parle, mais il avait déjà été mis en examen pour, il y a un an, alors qu'il n'avait que 14 ans, des faits d'agression, de séquestration et de viol sur mineur. Il avait été retenu pendant un an dans un lieu fermé. Est-ce qu'il aurait fallu, est-ce qu'on l'aurait pu, est-ce que la société peut faire plus ?
Je pense que d'abord ce drame est épouvantable et permettez-moi d'avoir un mot d'abord pour la famille de cette victime. J'aimerais dire que l'État français a encore une fois, je dis bien encore une fois parce que des drames de ce type se multiplient dans notre pays et traduisent aussi l'ensauvagement à un niveau très important de notre pays, a failli dans son rôle de protection du peuple français. Quand un individu est connu pour des faits similaires, pour viol, qu'il est mis en examen, donc connu des services
enfin, des
de
faits
police,
similaires, on ne sait pas encore hein, ce qui est arrivé
et
à la...
qu'il est... Bon, il est connu pour des faits, vous les avez rappelés.
Ce qu'on sait, c'est qu'il est le principal suspect dans la mort de cette petite fille.
Exactement. Il a été remis en liberté, moins d'un an après avoir commis un premier acte qui, là encore, fait l'objet d'une procédure de justice. Cela traduit, je pense, la faillite de l'État dans son rôle de protection du peuple français et l'incapacité de la justice française, en tout cas d'une grande partie des décisions de justice, à protéger le peuple français. Et beaucoup de Français qui nous écoutent, beaucoup de Français qui ont lu, qui ont vu ce drame, ont le sentiment que la justice française est systématiquement du côté des agresseurs, des criminels, et jamais du côté des victimes. Et il y a un sentiment de laxisme aujourd'hui dans les décisions de justice et dans l'incapacité de
mais
la justice à faire preuve de fermeté
de
pour
justice.
Protéger les Français.
Jordan Bardella, et c'est très compliqué. Évidemment, on ressent tous et on a tous envie de réagir avec notre émotion. Il faut regarder aussi ce qu'est l'état de droit. L'état de droit, c'est quand même aujourd'hui que vous n'allez pas garder interminablement quelqu'un enfermé alors qu'il n'a pas été jugé. Il est mis en examen, je le disais, hein, pour ses faits qu'il est soupçonné d'avoir commis alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a été dans un centre éducatif fermé pendant un an. Au-delà d'un an, alors qu'il n'est pas encore condamné, pourquoi le retenir ?
Mais pourquoi la justice est-elle aussi longue ? Je veux dire, c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est ça le chantier prioritaire pour réformer la justice dans notre pays. Vous me parlez de l'état de droit. Mais l'état de droit, ce n'est pas l'état de droit des délinquants et des criminels. Or, c'est devenu l'état de droit des délinquants et des criminels. L'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays. Elle s'est effondrée depuis, il faut bien le dire, depuis la mise de côté de la peine de mort, depuis la suppression de la peine de mort dans notre droit, qui a effondré la peine pénale. Moi, je ne suis pas pour le retour de la peine de mort.
Ça veut dire quoi ça, Jordan Bardella ?
Ça veut dire que la peine de mort a effondré l'échelle des peines dans notre société. Et que dans une société.
La suppression de la peine de mort a effondré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, forcément, c'est mécanique. Je vais vous dire, quand on a supprimé un des échelons, l'échelon supérieur, la peine capitale.
La peine capitale a disparu.
Mais vous le
la
regrettez ?
Peine qui devrait être... Non, moi je suis pour la perpétuité réelle. Et le Rassemblement National défend la perpétuité réelle. Sauf qu'en l'état actuel des choses, la justice est beaucoup trop longue dans notre société et la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, en tout cas au nom des victimes pour beaucoup de Français. Et moi je dis une chose qui est très simple. Il y a des pays, notamment des pays d'Europe du Nord, dans lesquels on a des modèles de fermeté à l'égard des mineurs qui marchent, avec des peines qui sont courtes, qui sont immédiates, qui sont efficaces. Dès le premier larcin, vous prenez 15 jours, 3 semaines de centre de rétention fermé dans le cadre des mineurs et vous avez des résultats qui sont beaucoup plus efficaces dans la lutte contre la délinquance et contre la criminalité. Le problème, c'est que cette lutte contre la délinquance et la criminalité, elle n'est pas menée dans notre société et qu'il n'y a aucun signal qui est envoyé par la justice française pour dissuader les délinquants et les criminels de commettre des méfaits et pire de commettre des viols ou des agressions sexuelles.
Il y a la question de la prison, il y a la question aussi de l'hôpital, du suivi psychiatrique, de la manière de se parler entre la police, la justice, tous les partenaires aussi, la question du suivi social d'un jeune. Est-ce que votre réponse, elle n'est que répressive ou est-ce que vous vous dites, tiens, un jeune comme ça, dans l'état des connaissances que l'on a. Mais il y avait, semble-t-il, un suivi psychologique imposé. A-t-il été suivi ou non ? Est-ce que cette question-là, vous la posez ? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, il faut mettre plus d'argent aussi pour la psychiatrie en France, pour le suivi de ce genre de jeunes ?
Oui, mais attention à ne pas trouver toujours des excuses. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, on trouve des excuses. Quand c'est pas le motif psychiatrique, c'est le motif social. C'est le motif de la pauvreté qui vient justifier le passage à l'acte pour un certain nombre de personnes. Donc, je ne connais pas, dans le cas d'espèce, le suivi psychologique ou psychiatrique s'agissant de ce fait qui a été mis en place. Mais je dis une chose, la justice est beaucoup trop laxiste dans notre pays et on n'enrayera pas cette spirale de la violence et de l'ensauvagement de notre société si on ne change pas radicalement la politique pénale dans notre société. Et on note qu'en la matière, le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, lui aussi semble porter disparu.
Semble porter disparu. Ça s'est passé il y a deux jours. Hein. Vous auriez voulu qu'il parle là ?
Non, mais il est où ? Enfin, je ne sais pas si vous avez de ces nouvelles.
Je ne l'ai pas invité, donc je ne peux pas dire qu'il a répondu.
Il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes qui est commise dans notre société.
Mais vous dites que c'est le signe d'un ensauvagement. Vous dites que c'est le signe de. Il y a de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus ?
C'est-à-dire que tous les voyants de la délinquance et de la criminalité sont en hausse dans notre société. Et que ça, c'est le bilan, alors, je ne vais pas dire des ministres, parce qu'au-delà des ministres, il y a un chef qui porte la responsabilité et qui s'appelle Emmanuel Macron. On ne vit pas plus en sécurité aujourd'hui qu'on ne vivait en sécurité il y a 5 ans. Et si le Rassemblement National arrive à la tête de l'État en 2027, nous ferons du retour de l'ordre, de l'autorité, de l'application des
Vous
lois et de la
quoi,
fermeté
là,
en matière pénale, un principe d'action dans notre quinquennat.
Vous auriez fait quoi pour ce jeune ? Vous l'auriez gardé enfermé, même s'il n'était pas jugé ?
Ah, je pense que les peines doivent être exécutées beaucoup plus rapidement. Nous manquons de place aujourd'hui dans les prisons, que ce soit dans les centres de rétention, dans les centres éducatifs fermés pour mineurs. Je vous rappelle qu'il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année, manquent de place.
Et je précise que lui, il avait trouvé une place. Il était placé donc dans ce centre éducatif fermé à Forbach. 12 adolescents encadrés par 30 éducateurs.
Très bien, mais un an après, la décision de justice n'a toujours pas été rendue.
La loi immigration, c'est pas pour maintenant, c'est dans la feuille de route des 100 jours d'Elisabeth Borne. Après avoir dit qu'elle serait finalement au programme avec Emmanuel Macron lundi dernier, finalement Elisabeth Borne y renonce. Est-ce que vous vous dites finalement, c'est pas plus mal, on le fera nous-mêmes, voire même le faire avec la droite? Vous comprenez que de toute façon il n'y avait pas les moyens de le faire, ou est-ce que vous vous dites on aurait dû le faire tout de suite, quitte à ce que ça passe pas?
D'abord, le quinquennat est suspendu aujourd'hui. Moi, j'ai entendu la première ministre hier s'exprimer pour ne rien dire. Je veux dire, j'ai entendu Madame Borne. Alors, c'est une souffrance, hein, maintenant, s'infliger des discours d'Elisabeth Borne. C'est déprimant au possible. On a une première ministre qui ne décide de rien, qui manifestement n'a même plus le soutien du président de la République, qui va jusqu'à humilier sa première ministre en la faisant s'exprimer, non pas des locaux de Matignon, mais des locaux de l'Élysée, qui vient nous expliquer qu'elle ne fera strictement rien. La vérité, c'est que quand on n'a pas de majorité, eh bien, on ne peut pas gouverner. Et tant que le gouvernement n'entend pas qu'il faut revenir aujourd'hui à l'esprit de la Ve République pour sortir de la crise politique,
ils peuvent pas faire
par la
sans
dissolution.
Majorité.
Mais alors, quand
ou
on
alors,
a pas de majorité,
ils auraient sorti le 49-3 et vous auriez crié au 49-3.
Quand on n'a pas de majorité, quand on ne peut pas gouverner, quand on ne peut pas mettre en œuvre son projet, alors on est dans une crise politique et dans une crise démocratique. Donc on revient devant le peuple français. Et on ne sortira pas par le haut de cette crise démocratique en faisant comme si la page de la réforme des retraites, elle était tournée. La page n'est pas tournée. On est dans une crise démocratique de fond qui se traduit par l'incapacité du gouvernement de faire voter notamment une loi de protection du peuple français sur l'immigration. Et donc, il faut revenir aux urnes. Et moi, j'ai la conviction que si demain, il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national aurait la majorité à l'Assemblée nationale et pourrait gouverner.
Vous appelez à une dissolution de l'Assemblée nationale.
Je pense qu'il faut revenir à l'esprit de la Ve République. L'esprit de la Ve République, c'est trois choses dans une crise. Et le général de Gaulle, le père de la Ve République, disait lui-même que la Cour suprême, c'était le peuple. C'est le référendum, la dissolution ou la démission du président de la République ou de la première ministre. On a bien compris qu'Elisabeth Borne n'allait pas rester très longtemps, mais je pense que la solution...
Elle a l'air de dire qu'au moins jusqu'à l'été, en tout cas, elle était en effet là...
Oui, mais elle ne sera probablement pas là à l'automne pour parler de cette grande loi sur l'immigration. On est en train de voir aujourd'hui, dans ce qui se déroule à Mayotte, et dans l'incapacité de l'État, encore une fois, d'assurer la protection... À vos souhaits, d'assurer la protection.
J'éternue en silence, mais vous l'avez vu.
Du territoire français, que l'immigration aujourd'hui crée les conditions d'une submersion à Mayotte. Il faut que les Français, que nos compatriotes de métropole qui nous écoutent.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Jordan
Bardella. Regarde ce qui est en train de se passer à Mayotte.
On va essayer de regarder.
À Mayotte, 70% des naissances sont des naissances qui sont issues des Comores. Mayotte est devenue la plus grande maternité de France, où les femmes de l'archipel des Comores viennent accoucher, avec la volonté pour les Comores d'organiser une immigration de peuplement à Mayotte et de revendiquer la souveraineté territoriale de Mayotte. Il faut regarder ce qui est en train de se passer. Mayotte est en train de vivre une véritable descente aux enfers. Il y a là-bas des bus scolaires qui sont attaqués par des bandes de jeunes comoriens à la machette. Il y a des enfants qui sont tailladés. On organise des couvre-feux pour protéger la population. C'est notre futur en métropole en matière d'immigration si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. Et je note encore une fois qu'en la matière, il n'y a que le Rassemblement National qui propose de reprendre le contrôle.
Honnêtement, on ne peut pas dire tout ça sans s'y arrêter un instant. Vous dites que c'est notre futur en métropole. En gros, le tableau que vous nous décrivez de Mayotte, que personne ne nie, hein. Le gouvernement lui-même dit que c'est une catastrophe et c'est pour ça qu'ils ont lancé cette opération qui a commencé hier. Qui, du point de vue en tout cas de la question de l'expulsion d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas censées rester à Mayotte, est en effet au point mort.
Trois expulsions mort, sur les 50 000 clandestins. Je veux dire, il y a 50 000 clandestins à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, qui nous a vendu la reprise en main du territoire de Mayotte, n'a été en capacité que
d'expulser trois personnes au moment où on se parle dans le centre de rétention.
Mais pour une raison très simple,
des Comores a refusé que les bateaux français accostent.
Donc la France est humiliée par un archipel de 800 000 personnes. La France, sixième puissance mondiale.
Mais vous feriez quoi, vous ?
Non, mais le ministre de l'Intérieur. Mais je vais vous répondre.
Vous n'allez pas les amener sur les ports si les Comoriens refusent. Vous n'allez pas laisser en mer.
Très bien. Alors je vais vous répondre.
On fait quoi ?
Deuxièmement, il faut faire de la politique, il faut arrêter de faire de la com. Vous vous souvenez du fiasco du Stade de France ? Vous vous souvenez du fiasco de l'imam Iquissen, où le ministre de l'Intérieur a érigé en ennemi public numéro un imam belge qui a pris la fuite avant même d'être expulsé. Vous vous souvenez de l'accueil des migrants de l'Ocean Viking, qu'on a été incapable de prendre en charge pour expulser dans leur pays de départ et qu'on a laissé filer dans la nature, dans le département du Var. Vous vous souvenez du bras de fer raté avec l'Algérie. Donc quand on passe son temps à faire de l'alcool, on n'agit pas. Premièrement, il faut supprimer le droit du sol. Parce que il a été restreint dans ses conditions à Mayotte, mais il n'a pas été supprimé. Aujourd'hui, Mayotte est devenue une maternité pour les pays voisins et notamment pour les Comores. Donc, un, il faut supprimer le droit du sol. Deux, il faut mettre en place la priorité nationale pour réserver les aides sociales aux Français et envoyer un signal très clair à tous ceux qui veulent venir dans notre pays. La France n'est ni une maternité où on vient accoucher et bénéficier d'aides sociales, ni un guichet social.
En attendant,
et troisièmement, il faut faire le bras de fer avec les Comores.
Quand les Comores vous disent on ferme notre port, on ne veut pas accueillir nos ressortissants qui sont chez vous, qu'est-ce que vous faites ?
Mais si on est incapable de faire un bras de fer diplomatique avec un archipel de 800 000 habitants, alors à ce moment-là, il faut rendre son tablier.
Enfin, visiblement, le bras de fer est aussi avec les Russes, non ?
Non, on a donné 150 millions d'euros d'aide au développement aux Comores. Je propose de suspendre l'aide au développement des Comores tant que les Comores refusent de reprendre ses ressortissants. Nous avons donné, au travers des transferts de fonds privés, c'est-à-dire l'argent que renvoie la diaspora comorienne de 300 000 personnes qui est très présente en France vers les Comores, c'est 20% du PIB des Comores. Je propose et nous proposons au Rassemblement National de suspendre ces transferts de fonds privés tant que les Comores refusent de reprendre leurs ressortissants.
Soit vous reprenez vos ressortissants, soit on coupe absolument toute possibilité d'envoyer des fonds aux Comores.
Et croyez-moi que si nous avions les manettes, je pense que nous aurions l'opportunité et en tout cas l'ambition de faire respecter la France dans des conditions qui permettent aux clandestins qui sont présents illégalement sur le territoire de Mayotte et qui créent les conditions d'une véritable submersion d'être récupérés dans leur pays d'origine.
Quand vous dites c'est le futur de notre vie en métropole, alors que vous racontez en effet des scènes épouvantables de collégiens dont les bus scolaires sont attaqués, vous faites quand même un raccourci terrible. C'est-à-dire que honnêtement, on n'en est quand même pas là.
Vous êtes allé à Mayotte ?
Non, mais je ne vous dis pas Mayotte. Mayotte, je constate tout à fait.
Je
ne l'ai pas constaté de mes yeux, mais je sais que tout le monde est d'accord. Ce que je vous reproche, c'est d'utiliser l'image de Mayotte en disant c'est ce qui nous attend en métropole.
Mais je mets en garde les Français et je leur dis que si on ne reprend pas le contrôle de la politique d'immigration, si on ne reprend pas le contrôle de l'ordre et de l'autorité...
C'est une préfiguration. Pour vous, c'est une préfiguration.
Le futur de la métropole sera ce qui est en train de devenir Mayotte aujourd'hui. Je me suis rendu à Mayotte il y a quelques semaines. Je me suis rendu aux côtés des policiers de la police aux frontières de Mayotte qui n'ont aucun moyen pour contrôler les portes de la Maison France et pour contrôler les frontières françaises là-bas. Ils sont complètement dépassés. Ils font un travail exemplaire, mais ils n'ont pas les moyens de l'État pour protéger nos frontières.
Jordan
et je peux
Bardella.
Vous dire qu'il y a déjà un certain nombre de quartiers en France où on est en train de voir ce qui est en train de se passer
Jordan
à Mayotte.
Jordan Bardella, je voudrais qu'on revienne en France et sur la loi immigration, puisque c'est là-dessus que je vous interrogeais et vous êtes parti sur ce qui se passait à Mayotte. Aucun problème, mais je voudrais comprendre sur la loi immigration. Elle est repoussée. Dans cette loi immigration, il y avait notamment l'idée de régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier qui travaillent en France. S'ils ne sont pas régularisés, ils travaillent aujourd'hui, ils travaillent dans le BTP, ils travaillent dans la restauration. Et les restaurateurs, ils crient à l'hypocrisie qui va se poursuivre. Je voudrais que vous écoutiez Alain Fontaine, qui est maître restaurateur, qui est président de l'Association des maîtres restaurateurs de France et qui était mon invité ce matin sur RMC.
Cette situation est ubuesque, c'est-à-dire que vous, nous, tout le monde, on a payé pour former ces gens-là, qu'on ne peut pas faire rentrer dans nos établissements, que ce soit commerçants, artisans, BTP et bien entendu restaurateurs. Je vous rappelle que 26% des cuisiniers, en Île-de-France, sont issus d'immigration. Vous comprenez bien que c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème et il dit au fond que heureusement qu'ils sont là quand même, à la fois ceux qui sont ici de l'immigration et ceux qui encore aujourd'hui sont sans papier et dont il précise qu'ils sont dans nos cuisines, dit-il.
Non mais attendez, d'abord moi, on parle des 26% de personnes qui occupent, de ce que j'ai compris, des emplois dans la restauration qui sont liés directement...
Cuisiniers.
Voilà, qui sont des immigrés, généralement en situation clandestine ou qui ont été régularisés depuis peu de temps. Je ne nie absolument pas les difficultés de recrutement aujourd'hui qu'on a dans un certain nombre de secteurs. On parlait de la restauration, mais c'est aussi vrai dans l'hôtellerie. Je pense que c'est un chantier à part. Il faut revoir la question des conditions de travail.
C'est pas à part.
Il faut revoir la question des salaires. Parce que le problème, c'est que depuis maintenant 20 ans, l'immigration est utilisée pour faire peser à la baisse sur les salaires. Et que quand vous allez régulariser...
Je l'ai interrogé précisément
quand
là-dessus.
Vous allez régulariser,
à la Fontaine, il dit on a fait des efforts considérables, à la fois sur l'organisation du temps de travail, pour pas qu'il y ait les pauses dans la journée, pour que le travail soit moins difficile.
Pas de candidats
et
à la
on a augmenté de 16% en moyenne les salaires.
Oui, quand ils le peuvent. Et nous, ce que nous proposons, c'est de permettre justement des hausses de salaire. C'est une mesure qui a été travaillée avec des chefs d'entreprise, qui soient exonérés de cotisations sociales et de cotisations patronales, pour permettre aux chefs d'entreprise de donner un coup de pouce dans cette période difficile pour le pouvoir d'achat au salaire de leur entreprise et qui, à mon avis, marche beaucoup mieux que les
prix. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux les régulariser que de poursuivre l'hypocrisie?
Mais c'est un cycle sans fin.
C'est ça ce qu'il dit. Il dit c'est l'hypocrisie dans le BTP, dans la restauration. Ça tient grâce à eux.
Mais non, mais d'accord. Ok.
Donc vous faites quoi? Vous continuez à fermer les yeux?
Je pense qu'il faut faire en sorte que les restaurateurs français puissent embaucher des travailleurs français et que des jeunes, par exemple.
Mais il en serait ravi, Alain Fontaine. Il ne choisit pas. Je vais reprendre son expression parce que c'est vraiment très fort ce qu'il dit ce matin.
Du concret derrière.
Il dit nos têtes blondes, il a utilisé l'expression, il dit nos têtes blondes ne se présentent pas. Notre société a changé. Il a même dit nous sommes aujourd'hui dans une société qui a un rapport au loisir et qui a un rapport au travail qui fait que les Français de souche, je déteste cette expression, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement et je dis ça avec beaucoup
de guillemets, ne se présente pas au job. Madame, tout le monde a compris de quoi on parle et tout le monde a compris de quoi
donc
on parle.
Donc heureusement qu'ils sont là, ceux qui acceptent de bosser.
D'accord. Sauf que quand vous avez des jeunes qui vous disent je veux bien venir dans les restaurants cet été du sud, de la Côte d'Azur, mais que je mets l'intégralité de mon salaire dans mon logement et que pour moi ça n'est pas possible de mettre le peu de salaire que je vais avoir parce que je vais faire un métier qui est pénible, qui est difficile dans mon logement, ça pose aussi la question des conditions de travail. Donc c'est un sujet à part entière.
Mais est-ce que ceux qui aujourd'hui bossent dans les cuisines des restaurateurs
madame,
ne doivent pas être régularisés?
Non, madame, c'est un appel d'air que vous envoyez. Parce qu'une fois que vous aurez régularisé les travailleurs qui viennent et qui probablement auront des conditions beaucoup plus exigeantes, eh bien ces travailleurs-là seront remplacés par d'autres qui vont venir et qui seront régularisés à leur tour. Ce que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est un cycle sans fin. Et que quand vous avez dans un pays qui a passé tous les records d'immigration avec Emmanuel Macron depuis 2017, sans exception, les naturalisations, les régularisations, l'octroi de titres de séjour, l'accueil d'immigrés clandestins, les mineurs étrangers non accompagnés, l'immigration ne vient pas seulement avec une variable économique. L'immigration, c'est aussi un apport culturel qui, dans un certain nombre de territoires, crée de plus en plus de tensions. Et moi, je pense que une très large majorité du peuple français souhaite aujourd'hui qu'on mette fin à l'immigration. Donc, la question de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration, c'est un sujet. Le sujet de l'immigration, c'est un sujet à part entière qui engage le peuple français et qui fait que aujourd'hui, la plus grande inquiétude des Français, c'est de rester eux-mêmes, de demeurer eux-mêmes, de conserver leur langue, de conserver leurs coutumes, de conserver leur art de vivre. Et ces coutumes, ces cultures et cet art de vivre est profondément bouleversé par l'accueil de centaines de milliers de personnes chaque année, qui certains viennent avec la volonté de travailler, de s'intégrer et s'assimiler, et qui d'autres viennent avec la volonté de changer notre pays.
Vous n'avez pas répondu à la question de l'hypocrisie et de comment est-ce qu'on ferait tourner la restauration et le BTP.
Non, mais moi je vais vous dire ce qu'on va faire. C'est que si on arrive à la tête de l'État, dans les premières semaines, nous déclencherons un référendum sur l'immigration. Parce que aujourd'hui, et c'est aussi la question que pose Mayotte, une grande partie des expulsions sont retoquées par le gouvernement des juges. Et une partie non conséquente.
Mais vous n'allez pas être en la loi.
Des juges.
Vous avez toujours dit que vous respecteriez l'état de droit. vous allez vous heurter aux mêmes difficultés que les autres.
Mais c'est faux, madame. Parce que nous allons soumettre à référendum un projet de loi qui permettra aux Français de reprendre le contrôle de leur destin. Dans ce projet de loi, il y aura
l'état
la priorité...
L'état de droit, oui, mais changer quoi.
Il y aura la priorité nationale. Mmh. Il y aura la suppression du droit du sol. Il y aura l'expulsion possible de tous les délinquants et criminels étrangers. Et nous ferons passer ces mesures par référendum, ce qui permettront de les rendre aussi intouchables par le gouvernement des juges. Pardonnez-moi, mais le référendum, c'est dans la Constitution. Et la Constitution, elle peut se changer, soit par le vote du Congrès, du Parlement réuni
soit
en Congrès,
par la référendum. Voix du peuple
c'est
avec le référendum
de la Ve République, pensé par le général de Gaulle.
Jordan Bardella, président du Rassemblement National, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin.